analyse précise, éclairée et utile. Voici les couettes du Capitaine National.
Hey, t'as fait un petit jingle à part de ça, mon Luc.
Marc s'est occupé de ça.
Je suis blasté.
C'est très bon. Hein,
c'est très, très bon.
Franchement.
Bon. Je suis content, tu le mérites.
T'es très, très bien.
Mm. Bon, mais là, il faudra que tu sois à la hauteur, par exemple.
C'est ça, il faudra pas que ce soit une langue descente d'intérêt.
Ouais, mais je veux juste vous dire une chose. Quand j'écoute les pronostics sportifs de Dan Pou, être à la hauteur, il faudrait qu'il
la barre est basse, disons.
Hey, monsieur.
Hey. Monsieur Ouellet, ça va bien?
Monsieur Martineau aimerait ça que vous excusiez d'avoir annoncé que l'Avalanche ferait Wipe en 4, en 5, puis qu'il y avait juste un trio, puis tout. Il m'a promis qu'il écouterait l'entrevue.
En 5, j'avais raison, ça a fini en 5. Ah, mais c'est pas la bonne équipe qui a gagné.
Non, c'est ça.
Hey, mais sais-tu quoi, Luc? J'ai erré dans cette prédiction-là, comme dans plusieurs prédictions. On s'entend qu'il n'y a pas grand monde qui va être 4 en 8 et mieux dans la première ronde cette année. Mais l'Avalanche, je sais que tu les suis de près parce que c'est ton ami qui est là-bas. Mais l'Avalanche, avec Nathan MacKinnon en première ronde, je pense qu'ils ont, fait ouvrir des yeux à des gens qui suivaient moins l'Avalanche.
Tu as tout à fait raison. Moi, ce qui m'a impressionné, gardien de but.
Oui, gros Bauer, oui.
Pour gagner en série éliminatoire, on le sait, Dan, ça prend un bon gardien de but. Puis la bonne nouvelle pour eux autres, sans oser d'un but, c'est pas
c'est vrai.
Sûr. Alors, eux autres aimaient mieux avoir sans oser
que Vegas.
Que Vegas, je suis d'accord. Il y avait un bon gardien de but.
OK, je m'excuse pour l'Avalanche. Je les ai négligés. Mais toi, Eric, t'as pas d'excuses jamais, non?
Non, mais moi je connais pas ça. Là, okay?
T'avais pris Colorado gagnant, ou
ben? Moi, je trouve qu'ils ont juste un trio aussi, Colorado. C'est vrai qu'ils ont juste un trio, non? ils ont un bon trio, mais ils n'ont un.
Mais non, un bon, au moins ils n'ont un, puis ils jouent encore.
Ah? C'est un message aux gens de Montréal qu'ils viennent faire. Là. L'as-tu pris?
Non.
L'as-tu pris, les équipes canadiennes. Non. Bon, je vais parler de politique.
Ah, c'est la politique, le sujet.
OK.
On s'avançait sur un terrain glissant. Là, on va s'avancer sur un terrain inondé parce que je veux te parler des inondations, Luc, parce que c'est ce qui a retenu l'attention de bien du monde au Québec ces derniers jours. Des inondations historiques dans certaines régions, des milliers de personnes sinistrées. C'est toujours des situations de crise où le gouvernement du Québec est interpellé parce que c'est le gouvernement qui est le plus proche du monde et c'est toujours sa responsabilité. Puis j'ai trouvé que, puis c'est pas la première fois qu'on a des inondations, là. Il y en a eu, rappelez-vous, avec Philippe Couillard il y a quelques années, puis Martin Coiteux qui était à l'époque ministre de la Sécurité publique. Et je trouve que la gestion de crise a été fort différente des libéraux à la CAQ. Puis un spécialiste de gestion de crise comme toi, je voulais t'entendre là-dessus. Comment t'évalues la performance du nouveau gouvernement en matière de gestion de crise? Parce que c'est pas une affaire qui est prévue. C'est pas un projet de loi que tu déposes. C'est pas une affaire que tu prévois. Mais quand ça arrive, il faut que tu le gères.
Exact. Mais faut le dire, Éric, chaque parti politique se prépare. T'es rendu au mois de mars. Puis il y a quelqu'un dans le gouvernement au niveau des communications qui prépare comment on va gérer les inondations parce qu'on est sûr que ça va arriver. Donc, il y a moins d'improvisation qu'il y en avait. Deuxième élément primordial, la barre est mise maintenant. Il faut que tu sois présent sur le terrain, c'est le mot d'ordre. Si t'es pas présent sur le terrain, les absents ont toujours tort. Et là, on commence à critiquer, ils ont pas d'empathie, ils s'en occupent pas.
Fait que là, tu disais à Geneviève Guilbeault, sors tes bottes de rubber puis va-t'en en bosse.
Exactement, okay. Puis va partout parce qu'elle va pas juste dans la bosse. Il faut que tu sois prêt.
Okay.
Eux autres, ils ont ajouté un élément, c'est qu'ils ont déposé une nouvelle politique qui pourrait faire en sorte d'acheter des propriétés de gens qui veulent quitter. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est tu vas quitter si tu es dans une zone inondable.
Mm.
Le problème, c'est quand tu mets une barre, tu dis 200 000 la maison, 50 000 le terrain, 250 000. Ça va bien pour la personne qui a une maison de 150 000. Mais ici, il y a des gens à Rigaud qui ont une maison de 500 000 et qui ont une hypothèque de 275 000.
Ça marche pas.
Ça fait que, première, moi, je pense que l'idée est excellente qu'on aille la discussion puis qu'on en parle. Le problème, c'est le timing. On amène ça dans une période où c'est émotif. Les gens ont les deux pieds dans l'eau, leurs sous-sols sont inondés, puis on leur dit, on leur garoche.
Allez-vous-en.
En plus, allez-vous-en, vous allez perdre votre maison.
T'aurais pris ça d'avance, toi, oui?
J'aurais pris ça soit d'avance.
Ou après.
Ou après, dire, écoutez, suite encore à une expérience qu'on vient de vivre, il faut qu'on adresse le problème. Mais là, il y a de l'émotivité, tout le monde est à fleur de peau,
c'est
ils
sûr.
Perdent leur maison, il y a de l'eau partout, Marc, puis on leur dit, ben là, on va te donner 200, puis tu vas t'en aller chez vous.
Donc, non, mais attends un peu, juste pour que je comprenne. T'aurais juste pas parlé des montants, mais t'aurais quand même parlé de l'idée du dédommagement.
J'aurais pas parlé de l'idée du dédommagement. J'aurais parlé soit il y a 3 mois, quand ils sont arrivés, 4 mois, 5 mois, ou après en disant on a regardé comment ça se passait, puis il faut trouver une solution, parce qu'à chaque fois qu'on dédommage aussi, c'est l'argent des contribuables.
Ben oui.
Alors, l'idée est très intéressante. Le timing, à mon idée, à moi, n'est pas le bon timing à cause de l'émotion. Tu t'en vas pas dire à quelqu'un qui a une maison de 500 000, m'a te faire un chèque de 250 000. Le gars, il a une hypothèque de 275. Il se ramasse devant rien, puis il perd sa maison. Il est obligé de déménager. C'est émotif, puis c'est difficile.
OK. Fait que là, dans le fond, tu t'aurais un petit peu attendu. Je suis tout à fait un peu d'accord avec toi qu'effectivement...
Ah là, pour une fois que t'es d'accord avec moi, je suis vraiment content. Ça, là.
Mais je suis obligé d'avouer que... Puis, mais en même temps, d'un autre côté, Geneviève Guilbeault est dans son meilleur dans ces éléments-là. Parce qu'il faut se rappeler qu'elle-même était une porte-parole, justement, du coroner. Dans l'époque, elle faisait un peu la job qu'elle fait présentement. Puis... Elle a très bien fait ça. J'ai trouvé que l'image était correcte. Tu sais, les points de presse ont été corrects. Mais c'est juste qu'elle défendait ce qu'on lui disait de dire. Là.
Absolument. Elle l'a bien joué. Le problème, c'est qu'on l'aimait dans une situation où le gars, il est en botte de caoutchouc, son sol est inondé, puis tu lui dis « tu perds ta maison ». Le timing n'est pas bon. L'idée d'avoir la discussion puis d'en parler est excellente. Je pense que c'est la chose à faire. Il faut adresser ça une fois pour toutes.
Oui, parce que avec de l'eau jusqu'aux genoux, c'est pas le temps de dire on va en parler plus tard. T'es d'accord avec ça?
C'est comme quelqu'un qui s'en va dans le garage puis il reçoit appel sur la tête puis il est ouvert puis il est fendu. Puis au lieu de l'amener à l'hôpital, tu lui dis t'as pas fait attention, t'as reçu appel sur la tête. Amène-le à l'hôpital, fais-y faire des points puis après tu lui diras qu'il n'a pas été.
Mais en même temps, ils vont dire, là, je me fais l'avocat du diable. Ils vont dire, oui, mais là, c'est bien beau, là, Luc Ouellet, là, mais qu'est-ce qu'on dit au monde en attendant? On peut pas lui dire, on va vous dédéménager, alors que nous autres, dans notre tête, il va falloir qu'il y en ait qui déménagent. On est aussi bien d'être honnête puis de lui dire tout de suite plutôt que de lui raconter des babards puis après ça, lui sortir le programme dans 6 mois.
Oui, mais le programme que tu sors, tu dis, il y a un montant pour tout le monde, alors qu'il y a des variations pour le prix des maisons. Ça fonctionne pas. On veut avoir là-dedans. C'est pas juste pour quelqu'un. Puis le prétexte qu'ils amènent, c'est qu'ils disent « Oui, mais vous le savez, il y a des risques à se faire construire sur le bord de l'eau. » Mais je m'excuse, mais quelqu'un qui a une propriété de 550, tu lui donnes 250, tu s'en es chez eux, puis il y a une hypothèque, il peut pas trouver ton plan intelligent. Deuxièmement, parle-y-en quand il est au sec, parle-y-en au mois de novembre, parle-y-en au mois de décembre, parle-y-en pas quand il est 2 pieds dans l'eau, parce que là, il t'écoute pas, il est paniqué, puis il veut juste sortir de sa maison, puis il veut juste limiter les dégâts dans sa maison. C'est juste ça le point que j'amène. Je trouve l'idée intéressante qu'on aille à ce débat-là, mais je trouve qu'on donne pas une chance à Mme Guilbeault en mettant ce programme-là quand on est les pieds dans l'eau.
L'autre affaire, c'est clair, Luc, que quand ces gens-là on construit des maisons. Moi, mes parents, je me souviens, ils regardaient des terrains. Ils avaient toujours voulu être sur le bord de l'eau. Tout le monde aimerait ça, avoir une belle maison sur le bord de l'eau avec un quai au bout de ton terrain, puis un bateau. Puis... Mais ils ont regardé ça, puis là, ils ont expliqué les limites des 0-20 ans, puis des 0-100 ans, puis ils pouvaient se mettre entre les deux. Puis mes parents m'ont dit, on ne prendra pas de chance. Puis en quelque part, tu prends une chance quand tu t'en vas te foutre sur le bord de l'eau puis dans des zones inondables. Fait que, tu sais, le fait que le gouvernement dédommage, puis là, je sais que c'est dur de parler de ça pendant que le monde, justement, a le pied dans l'eau, là, mais à un moment donné, il va falloir qu'on se demande, est-ce que c'est vraiment de la faute des contribuables ou c'est la faute du gars qui a décidé d'aller s'installer sur l'eau?
Éric, le débat, il faut l'avoir, mais je vais te poser une question à un gars comme toi qui fait attention à son argent puis qui est proche de ses sous puis qui la garoche pas partout puis qui nous a parlé de ses planchers pendant 3 semaines puis il fallait qu'il règle ça. T'as une maison de 550 000, Éric.
Oui.
T'es sur le bord de l'eau, t'en as pris soin puis tout, puis le gouvernement, t'es pieds dans l'eau puis il vient t'annoncer qu'il va te donner 200 de la maison pour 50 le terrain. Comment tu réagis personnellement, même si tu... Est-ce que tu dis, ouais, mais faut pas que les contribuables payent pour mes affaires?
C'est un bon point.
Objectivement, là, je te pose la question.
Non. C'est sûr c'est que tout le monde
T'es craqué, le débat est émotif, puis c'est difficile. L'idée est excellente. Moi, j'aime l'idée qu'on aille le débat une fois pour toutes, parce qu'il y a des risques. Puis ça, c'est le principe de l'assurance. OK? Quand t'as un foyer chez vous, ça te coûte plus cher que quand t'en as pas.
Voilà.
Alors, quand tu restes sur le bord...
Paye une assurance.
Quand tu restes sur le bord de l'eau, ben il faut que tu prennes des précautions, surtout s'il y a des inondations à 3 années. Alors, on s'en va vers ça, là. Alors, l'idée d'amener ça est excellente. Je me questionne sur le timing, puis je trouve qu'on met Mme Guilbeault, qui fait très bien ça, dans une situation vulnérable, parce que tout ce qu'on veut, c'est lui parler de l'inéquité entre quelqu'un qui a une maison de 550 puis quelqu'un qui a une maison de 150.
C'est sûr, ça va. En tout cas, on va voir comment ça va être accueilli par les sinistrés. Je pense que là, présentement, ils ont d'autres chats à fouetter. C'est ça le problème, c'est que la priorité pour eux autres, là, c'est de savoir comment qu'on sort le chat qui est pogné dans le sous-sol, inondé, puis comment, qu'est-ce qu'on fait avec... t'as-tu retrouvé le tiroir qui avait telle affaire dedans, puis mes papiers sont-ils dans l'eau ou sont récupérables?
Puis la photo, puis le cadre d'Éric Duhaime que j'avais dans le sous-sol. Là, faut pas que ça passe au bout du pont dans l'eau. Là.
Ça s'assure mal.
Puis mes livres, là, une fois inondés, ça sort bien mal.
Exact.
OK, là, je veux te changer de sujet. Je veux te parler un peu de ce qui se passe au niveau des provinces partout au Canada. Je veux te parler de politique parce que hier, il y avait une autre élection provinciale. C'était la plus petite des provinces, l'île du Prince-Édouard. Quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, il y a un peu moins de 4 ans, il y avait 7 gouvernements rouges sur 10, dont les 3 plus importantes provinces au Canada. Le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique et 4 autres gouvernements. Jusqu'à il y a 2 semaines, il en restait 4. L'Alberta, on vous en a parlé, on a même parlé à Jason Kenney le lendemain de sa victoire. Là, ils sont tombés à 3. Hier, le gouvernement libéral à l'île du Prince-Édouard, non seulement il a perdu, il s'est ramassé 3e. Et là, il reste 2 gouvernements libéraux et il y a une autre élection qui s'en vient à Terre-Neuve au cours des prochaines semaines. Puis les libéraux sont en difficulté. Ils pourraient ne rester que la Nouvelle-Écosse dans quelques semaines à la veille des élections fédérales. C'est-tu un prélude de ce qui s'en vient à Ottawa au mois d'octobre, Luc?
C'est intéressant à analyser. Première fois, l'île du Prince-Édouard, le premier gouvernement minoritaire de leur histoire.
Ils n'ont jamais eu ça.
Deuxièmement, tout le monde dit que c'est une très grosse victoire des Verts parce qu'ils ont fait élire 9 députés, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une semaine, il y avait 42 % des votes puis ils formaient le prochain gouvernement.
Tout le monde nous dit qu'elle allait gagner.
Faisons attention en victoire. C'est sûr que c'est une percée des Verts, mais c'est pas une victoire parce qu'ils l'ont échappé, l'élection. Ils l'avaient il y a une semaine.
Oui.
Alors, faut faire attention. La question, tu as tout à fait raison, est-ce que c'est un prélude? Mais je vous pose, puis j'ai pensé à ça depuis ce matin, puis j'ai échangé avec des gens, Éric puis Marc. Vous autres, là, pensez-vous que ça aide Justin Trudeau qui aille plus de gouvernement provincial conservateur ou ça lui nuit?
Ben moi,
parce que dans le temps de Trudeau, de Père,
oui.
C'était tout des bleus au Québec. Dans le temps de Mulroney, c'était tout des rouges au Québec. Donc, on met pas nos œufs dans le même panier. On dit le pouvoir fédéral est dans les mains de libéraux. Je vais le mettre dans le provincial. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que c'est pas mathématique.
Non, pas mathématique. C'est pas clair. T'as raison. Mais moi, je pense, pour 3 raisons, je pense que ça va nuire à Justin Trudeau. La première, d'abord, c'est au Canada anglais, c'est pas comme au Québec, hein. La fusion entre rouge à Ottawa puis rouge au niveau provincial est beaucoup plus forte qu'ici. Ici, il y a bien des rouges que c'est des mauves, là. On s'entend-tu qu'ils sont conservateurs à Ottawa? Puis nous autres, on a le Bloc, puis on a le PQ, puis on a la CAQ, puis on sait pas trop si c'est vraiment des conservateurs ou pas. Tu sais, notre paysage politique est plus... il est bien différent du reste du Canada.
C'est parce qu'on vote même pas pour les mêmes raisons.
Non, c'est ça. Fait que c'est difficile de faire une adéquation, comparer le Québec avec le reste. Fait que ça, c'est... Mais dans le reste du Canada, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de ces gouvernements-là qui sont récents. Si ça faisait longtemps qu'ils commençaient à avoir beaucoup de négatifs contre eux, là, je dirais ça peut être bon pour Justin Trudeau parce que la grogne qui va commencer à pogner au niveau provincial va rapporter au niveau fédéral aux libéraux. Mais là, il y en a beaucoup là-dedans qui viennent d'être élus. On vient de parler d'eux là, depuis au cours des derniers jours. L'Ontario, ça fait pas 100 ans non plus. Là. Fait que c'est des gouvernements qui viennent. La CAQ non plus. C'est des gouvernements qui viennent d'arriver au pouvoir. Fait qu'ils sont encore sur une lune de miel. C'est ça qui est dangereux pour
Donc,
Justin Trudeau.
Donc, toi, tu dis que ça nuit à M. Trudeau au lieu de l'aider, même si traditionnellement, on ne veut jamais mettre nos œufs dans le même panier fédéral-provincial.
Bon, ben voilà.
Toi,
ben,
Marc, comment tu analyses ça?
Moi, ton traditionnellement, c'est là que je commence ma réflexion, c'est que traditionnellement, la politique et les élections ont jamais été avec des données de base comme aujourd'hui à cause de la surmédiatisation de tout. Donc, traditionnellement, c'est là que je me porte en faux, il existe déjà plus. C'est-à-dire que moi, je résume la théorie de c'est quoi une élection en Amérique du Nord, c'est celui qui passe le plus à TV. Point final. T'as passé à la TV, tu as... Non. Sais-tu quoi? Si tu mesurais ma théorie, tu verrais que j'ai très, très, très souvent raison. Donc, d'après moi, ce qui se passe, contrairement à ce qui, avant, aurait pas eu la même influence, c'est que on va entendre parler beaucoup, beaucoup de premiers ministres conservateurs avec des idées conservatrices qui vont interpeller le téléspectateur, je te parle même pas de l'électeur, j'ai renversé les rôles, et qui va faire que l'électeur va être beaucoup plus influencé qu'avant par tout ce qui se dit dans sa province. Alors, la place, avec ma théorie, où ça va être le moins nuisible à Trudeau, c'est ici, parce qu'ici, le Parti conservateur est inexistant.
OK.
Alors, moi, ce que je te dis, c'est qu'il va y avoir, d'après moi, un balayage conservateur dans beaucoup de provinces anglophones. puis qu'au Québec, il y a encore de très grandes chances. Doublé au fait que, comme je disais à Eric, toute l'affaire de Rabel Crash-Guys, là, personne ne comprend rien. Ici, là, ça n'a rien à voir avec Charbonneau, parce qu'on a l'impression que le monde s'en est mis dans les poches. C'est une affaire de gouvernance pas claire.
Oui, mais...
Ça passe dans le bar.
Mais ça a passé, ça vient de ta théorie, qu'ils ont passé 15 semaines à être à la télévision, c'est à la défensive. Donc, on les a vus dans une mauvaise situation. Puis pourquoi
ça va être oublié comme la rigueur de l'hiver sur une terre.
Moi, ce qui me fait hésiter à faire des prédictions par rapport à ça a l'avantage ou ça a l'avantage pas, savez-vous c'est quoi?
C'est quoi?
C'est rendu l'infidélité politique. Ouais. On n'a pas depuis Jean Chrétien fait l'élection de deux mandats d'un gouvernement majoritaire, c'est pas arrivé. Puis nulle part dans chaque de province, on est dans une volonté de changement. Alors, il n'y a plus de fidélité, puis il n'y a plus de tradition.
Voilà.
C'est là que je te rejoins.
On est tous
dans le sens où je dis, on regarde ça aller, puis on mesurera probablement pas de dire, je mets-tu mes œufs dans le même panier ou pas, puis on peut peut-être prendre une décision qui va dire, je vais voter pour le meilleur.
En terminant, Luc, je veux te parler aussi aujourd'hui, c'est une nouvelle d'une ex-collègue ici au FM 93, Véronique Tremblay, que vous avez connue aussi comme députée dans Chauveau et comme ministre déléguée au transport. Véronique vient d'être nommée directrice générale puis organisatrice en chef pour le Parti libéral du Québec. Moi, j'ai été surpris pour deux raisons. D'abord, c'est une fille qui est très... C'est une personnalité publique. C'est même avant d'être ici, elle était à la TV. Elle a toujours été une porte-parole beaucoup. Et de voir que, habituellement, le directeur général du parti, c'est quelqu'un qui est plus dans l'ombre. On s'entend-tu?
Puis la 100% raison avec
toi. La deuxième chose, moi, les directeurs généraux que j'ai connus d'un parti dans lequel j'ai milité, c'était des gens qui avaient des racines dans tous les maudits comtés, puis qui connaissaient tout le monde dans le parti par le petit nom, puis qui avaient fait 25 ans de congrès politique. Elle était pas libérale il y a 3 ans. Fait que j'essaie juste de comprendre...
Sur papier,
oui.
Femme, fille de région... Très bonne communicatrice. Ils ont besoin de faire une grosse job au niveau des communications pour aller chercher le monde. La question, c'est le deuxième volet. Elle a milité combien de minutes dans le Parti libéral avant d'être élue? La réponse, c'est zéro. Alors là, on est zéro dans Ouellet?
Non, dans Ouellet.
C'est rendu comme dans Ouellet.
Zéro comme dans Ouellet.
Ouais, ben oui, on a changé.
On est mal pris. Zéro comme Ouellet.
C'est fantastique.
C'est
C'est
extraordinaire.
C'est la même
famille. C'est ça, la grande question. Je me souviens des organisateurs très... Benoît Savard, l'organisateur de Daniel Johnson, Jean Charest, quelqu'un qui avait des racines dans tous les comtés. Il était...
Tu prends le téléphone,
André Bellerose, qui est organisateur. C'est des gens qui avaient milité pendant... Avant d'accéder au poste d'organisateur en chef puis directeur général du parti... T'avais fait tes classes dans les régions. On va y donner le bénéfice du doute. C'est une femme intelligente. Sur papier, c'est une très bonne idée. Sur le terrain, est-ce qu'elle connaît la recette magique pour faire en sorte de bâtir des associations de comté? On y donne le bénéfice du doute, mais on verra.